Bonjour. Quelle joie de pouvoir être là parmi vous et de vivre ces moments où la famille spirituelle se retrouve autour de la famille humaine pour vraiment la bénir. Pour moi, je trouve que c'est vraiment des moments de grâce qu'on a l'occasion de vivre et d'être ensemble et de partager. Et la famille humaine, eh bien, pour qu'elle puisse se construire, il faut qu'à la base, il y ait un couple. Et c'est du couple que je suis venue vous parler aujourd'hui. Et particulièrement du mariage tel qu'on le trouve dans la Bible, entre l'homme et la femme, et aussi de l'alliance entre Christ et l'Église. Et quels sont les défis pour nous, aujourd'hui, à l'heure actuelle, par rapport à tout ça? Alors ma prédication aujourd'hui, elle va être un petit peu particulière, parce qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai passé mes examens, comme vous le savez, et c'était le sujet de mon travail de mémoire. Alors Nicolas m'avait demandé de prêcher là-dessus, et je trouvais qu'aujourd'hui, c'était la bonne occasion. Donc du coup, comme j'ai travaillé avec différents auteurs, je vais un peu vous citer les différents auteurs au cours du voyage qu'on va faire ensemble. Donc, les auteurs principaux avec lesquels j'ai travaillé sont Jean Calvin, Martin Luther, donc vous les connaissez, et puis un peu plus récent, c'est Timothée Keller qui a écrit le livre « Le mariage, un engagement complexe à vivre avec Dieu ». Donc je vais vous partager leur avis aujourd'hui, et puis bien sûr j'ai mis un petit peu mon grain de sel, hein, parce qu'il fallait que je m'en mêle un petit peu quand même. Donc pourquoi ce thème du mariage? Eh bien j'ai choisi ce thème parce que l'institution du mariage, elle a été longtemps la norme en matière de vie conjugale. Mais de nos jours, elle s'est beaucoup affaiblie. Beaucoup de couples cohabitent ensemble sans être mariés. Les gouvernements, les uns après les autres, reconnaissent le même droit à plusieurs formes de conjugalité, plusieurs formes de couple, telles que le Pax, l'union libre, le mariage pour tous, etc., etc. Du coup, le protestantisme, ayant largement soutenu l'idée que le mariage est une affaire d'État, une affaire civile et non pas une affaire de l'Église, se retrouve à glisser peu à peu vers une reconnaissance du même droit pour toutes les unions telles quelle qu'elle soit. Du coup, la théologie protestante en prend un coup. Elle commence à se trouver comme prise en otage et contrainte d'accueillir toutes ces différentes relations et même de les bénir dans certaines situations. Ce qui complique encore la chose, c'est que dans le protestantisme, le lien du mariage entre l'homme et la femme est assez flou. Et celui entre l'alliance entre Christ et l'Église, il l'est tout autant. Le mariage humain est plutôt considéré comme étant une parabole de la relation entre Dieu et son peuple, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et de plus en plus, on entend dans les églises protestantes dire qu'il n'y a pas de théologie du mariage dans la Bible. Donc moi, je me suis penchée sur ces questionnements, et puis je suis allée voir, et j'ai commencé par Éphésiens 5, 25, qui nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Pour moi, cette parole semble dire que le mariage existe dans la Bible et même qu'il existe un lien entre le mariage qui unit l'homme et la femme et l'alliance qui unit Christ avec l'Église. Dans le catéchisme et la culture catholique, il est clairement considéré que l'Église est l'épouse du Christ. Pour les catholiques, l'alliance entre les deux aurait été annoncée par le prophète Jean-Baptiste lorsqu'il a écrit ce qu'on trouve dans l'évangile de Jean au 3:29, « Celui qui a la mariée, c'est le marié. » Le marié, là, est le Christ. Cette position a été confirmée par différents théologiens, notamment Bernard de Clairvaux, qui a écrit que Jésus est l'époux de l'âme chrétienne. Donc pour eux, l'Église et le Christ ont effectivement une alliance entre eux. Et le mariage entre l'homme et la femme étant basé sur cette alliance, il fait partie des sept sacrements. Il est considéré comme l'un des lieux de la révélation de Dieu et il a un caractère sacré. Alors, entre ces deux parties, qu'est-ce qu'il en est de nos églises évangéliques ? Eh bien, dans nos milieux évangéliques, comme dans le protestantisme, nous ne considérons pas le mariage comme étant un sacrement. Parce que effectivement, le mariage ne sanctifie pas, il ne nous donne pas la foi et il ne nourrit pas notre foi. Si durant plusieurs siècles, nos églises ont eu une théologie claire vis-à-vis du mariage biblique, de plus en plus, certains chrétiens et certains ministères dans nos milieux glissent sur la même pente que le protestantisme et se mettent à prêcher ou à enseigner qu'il n'y a pas de mariage dans la Bible. Nous avons donc là des situations différentes, des points de vue différents, et cela peut nous conduire sur des chemins différents les uns des autres. Dans une même église, on peut se trouver avec différents points de vue. Aujourd'hui, donc, on va faire un bout de chemin à travers la Bible pour essayer de se faire une idée. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui des polémiques concernant la soumission des femmes, ni du divorce, ni du remariage des divorcés, parce que c'est des sujets qui méritent des prédications à part entière. Donc, là, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur le mariage et on va partir d'Éphésiens 5. Et puis, on va passer aussi par Genèse. Et je vous ferai découvrir un peu de l'Ecclésiaste, un peu des Proverbes, un peu du prophète Malachi et l'Apocalypse. Vous avez pris votre casse-croûte ? On ne vous l'avait pas dit ? Bon. Alors déjà, quelques mots et définitions sur le mariage. Dans le judaïsme, le mot utilisé pour symboliser le mariage est « kiddushim », c'est-à-dire « sanctification ». Le mariage y tient donc une place importante puisqu'il est considéré comme étant une véritable institution divine. Le mariage est incontournable pour l'être humain car pour eux, l'homme et la femme deviennent l'un pour l'autre de véritables bénédictions lorsqu'ils se marient. Pour plusieurs des auteurs que j'ai lus, entrer dans le mariage, c'est construire une relation d'amour réciproque, c'est s'aider mutuellement. Mais c'est aussi vivre des changements physiques, des changements sociaux, c'est quitter ses parents, c'est s'attacher à son conjoint, c'est devenir un couple, c'est entrer dans une nouvelle relation. Le mariage doit donc s'envisager sur beaucoup de plans, affectifs, pratiques, social, physique. Et le mariage est un acte public, un acte d'engagement individuel réciproque qui inscrit le couple dans la société, lui confère des devoirs et des privilèges, mais des devoirs aussi. Et si la cérémonie du mariage telle que nous la connaissons, c'est-à-dire on va au bureau d'état civil, et puis après peut-être on va à l'église ou peut-être on n'y va pas selon comment on se positionne, eh bien, si cette cérémonie-là, on ne la trouve pas dans la Bible, telle qu'elle, eh bien, l'union homme-femme publiquement reconnue dans la durée et dans la fidélité comme base de la relation humaine, eh bien, celle-ci, on la trouve dès le commencement dans la Bible. Et là, j'appelle Dora à venir nous faire la lecture de Genèse 2.
L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Merci Dora.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce « il n'est pas bon » est l'expression hébraïque « lo tov ». Je ne suis pas très bonne en hébreu, donc mon accent n'est peut-être pas extraordinaire. Donc c'est l'expression « lo tov » et cette expression évoque quelque chose qui n'est pas terminé. Quelque chose qui est inachevé. Donc, dans ce contexte-là, cette expression semble dire que l'homme, s'il reste seul, n'est pas totalement achevé. C'est comme s'il manquait quelque chose, comme si on faisait un puzzle et qu'il nous manque une pièce. On ne peut pas le finir. Cela ne signifie rien de péjoratif vis-à-vis de la femme, parce que le mot hébreu, quand il dit qu'il lui fait une aide semblable à lui, le mot hébreu zer qui est utilisé pour parler de la femme signifie une aide, un soutien. Il ne réduit donc pas la femme à une servante ou la bouée de sauvetage ou la bouée de secours ou d'autres mots comme ça. Non, bien au contraire. D'ailleurs, dans d'autres passages bibliques, ce même mot est utilisé pour qualifier Dieu qui vient au secours de l'être humain. Donc la place de la femme, elle est hyper importante. Ce n'est pas rien. La femme a donc été conçue comme partenaire se tenant aux côtés de son mari, tout contre lui. C'est pour ça qu'elle a été prise de la côte. Comme ça, elle est tout près de lui, comme ça, tout contre. Elle n'a pas été prise de la tête, sinon elle risquerait de lui marcher dessus. Elle n'a pas été prise de ses pieds, sinon lui, il risquerait de l'écraser. Elle a été prise de la côte. Comme ça, elle est tout près. Le mari, avec son bras, il peut la protéger. Ceci nous explique le manque de plénitude qui pourrait se produire si l'homme était seul sans la femme ou si la femme était seule sans l'homme. L'un sans l'autre, ils ne peuvent pas exister. L'un sans l'autre, ils sont incomplets. Au verset 22, de toujours Genèse 2, il est écrit « Dieu amena la femme vers l'homme ». Adam n'a pas agi par lui-même et de sa propre volonté. Il n'a pas pris Ève par la main, il ne lui a pas dit « Allez, on va vivre chez toi ». Ou bien tu préfères pas venir chez moi, mon appart il est plus beau, j'ai déjà tout installé, je suis quitte de déménager. Adam a attendu. Il a attendu que Dieu lui amène Ève. Comme un père amène la fiancée au fiancé le jour des noces. Vous savez, ce moment où la fiancée rentre au bras du père et le père amène et donne la fiancée au fiancé. Eh bien, c'est ça que Dieu il a fait. Il a amené Ève à Adam de la même manière. Et quand on lit ça comme ça, eh bien, on se rend compte que nous avons là la première description du mariage entre l'homme et la femme de la Bible. Le premier mariage de la Bible a lieu à ce moment-là. Maintenant, on va revenir à Éphésiens, notre passage principal. Et j'appelle Denis pour venir nous faire la lecture, s'il te plaît.
Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Un peu plus loin, le 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis de cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.
Amen. Merci, Denis. Le verset 25 nous dit « Marie, aimez vos femmes ». Le verbe « aimer » qui est utilisé là est le mot « agapé ». C'est dans la lettre aux Éphésiens que nous trouvons le plus ce verbe. L'amour agapé est le seul amour qui peut combiner la soumission, le don de soi, la tendresse, la patience, la bienveillance, le pardon. C'est le seul amour qui construit, qui nous construit. L'amour agapé est inconditionnel. C'est l'amour de Dieu pour les siens. Au verset 32, Paul nous parle d'un grand mystère. du mystère concernant l'alliance entre Christ et son Église. Le mot mystère ici vient du grec mysterion. Il désigne quelque chose d'impossible à comprendre si Dieu ne nous en donne pas la révélation. La déclaration de Paul dans ce verset 32, « Le mariage est un grand mystère », fait écho à celle du verset 25 qui dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle ». Par ce biais, l'apôtre Paul fait clairement le lien entre le mariage humain et l'alliance entre Christ et l'Église. Le mystère dont parle Paul serait donc la clé et se situerait dans le message appelant les maris à faire pour leur épouse ce que le Christ a fait pour l'Église. Ça ne veut pas dire que les maris doivent aller mourir tout de suite. Qu'on s'entende bien. Je n'ai pas dit ça. Mais le Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie. Et l'apôtre Paul relie le mariage humain de Genèse 2 au mariage de Jésus avec l'Église que nous trouvons dans Apocalypse 19, 7. Et là, l'apôtre sous-entend que lorsque Dieu a créé le mariage au début de la Bible, le mariage d'Adam et Ève, eh bien, il pensait déjà à l'évangile du salut qui allait être engendré par le Christ dans cette alliance avec l'Église. L'un et l'autre s'expliquent l'un par l'autre. Ça va, vous arrivez à me suivre? On peut donc voir que la Bible commence par un mariage, celui d'Adam et Ève, qu'il se termine par les noces entre l'agneau et le Christ dans Apocalypse. Et entre les deux se situe le passage d'Éphésiens 5, dans lequel il est écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, respectez vos maris. » Et ce passage-là fait le lien entre les deux autres. Mais alors, pourquoi Dieu demande-t-il aux hommes d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église ? Eh bien, Jean Calvin nous dit que dans ce passage d'Éphésiens 5, l'apôtre Paul utilisait l'exemple du Christ parce que si en degré d'honneur les hommes portent son image, qu'ils représentent quasi sa personne puisqu'ils sont les hommes, ils doivent aussi lui ressembler en affection et en devoir d'amitié. Ainsi, l'apôtre cherchait à exprimer aux hommes l'amour particulier qu'ils doivent avoir pour leur épouse. Et si ce verset « Qui aime sa femme s'aime lui-même », le verset 28, est suivi, si ce verset, le 25, est suivi du 28, voilà, « Qui aime sa femme s'aime lui-même », c'est afin de faire comprendre aux époux comment le Christ a aimé l'Église, au point de ne faire plus qu'un avec elle. Par cette déclaration, l'apôtre Paul revient donc à ce qu'Adam a dit dans la Genèse, lorsqu'il a dit « Voici cette fois celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. » Adam a prononcé ces mots et l'Église devient l'épouse du Christ. Celle qu'il a engendrée, celle qui est née de lui. Ainsi, tout est accompli. Tout devient une seule chair par le Christ. D'ailleurs, Calvin nous dit que c'est un grand secret que Christ a souffert une côte et qu'une côte lui soit ôtée de laquelle est née l'Église. Il fait là allusion lorsque le Christ, sur la croix, il a eu la côte transpercée par les gardes. Il n'a pas eu les genoux brisés, il a eu la côte transpercée par les gardes. Et après ça est née l'Église. Et de la même manière, Adam, Dieu lui a enlevé la côte et est née la femme. Vous me suivez toujours ? On continue alors. Tout ça, ça nous rend drôlement plus clair le fait que l'homme et la femme ne sont pas faits pour vivre seuls, ils sont faits pour vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle Ève a été créée à partir de cette côte, parce qu'ils sont complémentaires l'un à l'autre. Du coup, on comprend mieux la parole de Jésus dans Matthieu 19 quand il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a fait, ce que Dieu a uni. En plus, Jésus lui-même a reconnu le mariage entre l'homme et la femme comme étant une ordonnance divine et une ordonnance de Dieu, une bonne ordonnance, parce qu'aux noces de Cana, Jésus a fait son premier miracle. Il a honoré les noces de sa présence et en plus, il y a fait le premier miracle. En faisant ça, il honorait le mariage et il remettait le mariage à sa place. Une autre chose importante que j'ai relevée chez différents auteurs et notamment chez Martin Luther, c'est le fait que la croix et donc le Christ est toujours au centre du mariage. En tout cas, ils sont censés y être. Pour Martin Luther, cette présence de la croix dans la vie conjugale est l'une des raisons majeures pour lesquelles le mariage mérite d'être appelé un état spirituel. Ce qui veut dire une situation qui impose un besoin constant de référence à Dieu et d'une présence permanente de sa part. Une relation qui demande une obéissance à Dieu. À travers tout cela, nous voyons donc que le mariage de l'homme et la femme était un acte voulu et décidé par Dieu dès la création. Que le mariage est entre l'homme et la femme est le genre de vie qui est plu à Dieu dès qu'il a instauré la création, dès le départ. Que celui-ci est maintenu jusqu'à la fin, et jusqu'à la fin, il va le glorifier en glorifiant les noces du Christ et de l'agneau et de l'Église. Le mariage est donc une alliance construite avec le même amour inconditionnel qui unit le Christ à son Église, l'amour agapé. Cet amour inconditionnel que Dieu a utilisé pour créer toute la création et qu'il continue d'utiliser maintenant. C'est cet amour inconditionnel dont nous parle l'Ecclésiaste quand il nous parle de la corde à trois brins. Vous savez le passage? Eh bien, c'est de cet amour-là que l'Ecclésiaste nous parle. Il m'a fallu longtemps pour le comprendre. Mais c'est de ça. C'est avec cet amour-là que Dieu a célébré lui-même le tout premier mariage. Vous imaginez? Dieu à votre mariage? On voit les choses autrement, hein? Quand on se dit que quelque part Dieu, il est là, présent, quand on se marie, comme quand Adam et Ève se sont mariés. Le mariage est donc une union, une relation dans laquelle s'accomplit pleinement l'œuvre du Dieu créateur. Une ordonnance bonne et sainte, une alliance voulue par Dieu et non une relation superficielle ou juste une relation juridique. Et nous devrions, à mon avis, le considérer avec la même importance que celle que Dieu lui a donnée dès le départ. Et avec la même sainteté. Et prendre soin de nos mariages et prendre soin des couples mariés. Parce que le mariage prend toute son essence dans la Genèse. Il est la représentation du lien qui unit le Christ à son Église. Alors maintenant, quelles sont les implications pour nous aujourd'hui, dans notre vie? Parce que c'est bien beau, là, Sylvie, elle cause. Eh bien, quand on regarde autour de nous, dans la plupart des récits que nous connaissons, que nous avons autour de nous, que nous rencontrons, lorsqu'il y a un rejet du mariage, lorsqu'il y a des difficultés, des déchirures, nous pouvons constater que les crises ont lieu, parce que la question de cette alliance est rejetée ou parce qu'elle n'est pas comprise. La plupart des couples qui se marient aujourd'hui, enfin, ou qui se sont mariés, au contraire, refusent de faire, ne connaissent pas complètement les tenants et les aboutissants du mariage. Je dis ça sans jugement, hein. Aucun jugement pour personne, j'y suis passée, je sais ce que c'est, le mariage, c'est pas facile. Et Moi, je sais que en tant que ministère, quand j'accompagne des personnes dans le mariage, voilà, eh bien, actuellement, là où je suis en stage, on est en train d'accompagner un couple, ils se marient bientôt, mais ça a été rude, l'accompagnement. On se rend compte que les gens se marient pour toutes sortes de choses. Ils ne veulent pas être seuls, des raisons financières, mais plein d'autres raisons comme ça, où on s'aime. Oui, d'accord, mais après, la foi et tout. Non, mais ça, ça compte pas, on s'aime, c'est tout, c'est bon. On se marie, puis si ça marche pas, on divorcera. Mais le mariage biblique, le véritable amour que nous venons de voir, il n'est pas là, on ne le trouve pas. Du coup, beaucoup de mariages se retrouvent à construire sur une attente à des fins de bonheur personnel. Et lorsque la désillusion remplace les premiers émois amoureux, eh bien, nous voyons des unions qui prennent l'eau et qui partent à la dérive comme des vieux bateaux, vous savez, perdus sur un océan. On voit ça des fois, ils retrouvent des bateaux. Des dizaines d'années après, il était perdu, il ne savait pas où il était passé. Et on se retrouve avec des mariages qui prennent l'eau de toutes parts et qui partent comme ça sur des océans. Et on ne sait plus quoi faire. On est là, les pasteurs. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on ne sait plus quoi faire. Et bien sûr, il y en a un autre, c'est Satan. Satan, il sait, les couples sont la cible préférée de Satan. Parce que Satan, lui, il sait que dès le départ de la création, Dieu a créé le couple. Il sait que le couple, c'est le grand amour de Dieu. Il sait que les couples sont la force de l'Église. Alors, il aime les détruire. Donc, du coup, il fait tout pour les faire se disputer. Et puis, on se retrouve avec des couples qui ne sont plus dans l'unité. Des couples qui ne viennent plus à l'église ensemble, où ils viennent ensemble, mais ils ne se parlent pas. Ils s'assoient chacun d'un côté, ou ils s'assoient l'un à côté de l'autre, mais ils ne se parlent pas, ils ne sont pas dans l'unité. Et tout ça fait du mal à l'église. Aussi, moi, je pense que si on veut amener un enseignement à l'église, un enseignement sur le mariage, il ne suffit pas de préparer seulement les futurs candidats, les jeunes candidats au mariage. Je pense que c'est toute l'Église qui a besoin d'un enseignement, de comprendre l'importance du mariage. Car nous avons tous un rôle à jouer. Nicolas disait tout à l'heure qu'on a un rôle à jouer par rapport à Esteban et Joanie pour les entourer dans leur mission de parents. Eh bien, le mariage, c'est pareil. Le mariage est une mission et les couples ont besoin d'être entourés. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Et il n'y a pas d'âge. Quel que soit, qu'on soit mûr ou pas mûr, qu'on soit plus âgé, moins âgé, qu'on soit célibataire, marié, veuf, divorcé, peu importe, on a tous un rôle à jouer. On a tous à porter les couples ensemble dans la prière. On a tous à les entourer, on a tous à prendre soin d'eux. Car le mariage, s'il est l'une des plus belles histoires dans notre vie, il est aussi l'une des plus difficiles. Le mariage n'est pas une sinécure. Ce n'est pas une promenade de santé. Il est à la fois merveilleux et douloureux. Et il l'est parce qu'il reflète l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, il y a des choses faciles et il y a des choses difficiles. Il y a des passages qu'on aime bien, il y a des passages qu'on n'aime pas. Il y a des passages qui nous énervent. On dit, oh, ben ça, je le verrai demain. Puis il y a des passages qu'on dit, oh attends Seigneur, je partirai travailler un peu plus tard, là, j'en ai encore. Le mariage, c'est pareil. Il y a des moments difficiles, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Mais le mariage est une véritable bénédiction. Il est une bénédiction pour l'homme et la femme qui unissent leur vie parce que Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a créé deux amis spirituels pour qu'ils puissent s'entraider ensemble le long du voyage, le long du chemin. Et pour que chacun, séparément, mais aussi ensemble, puisse refléter la gloire de Dieu. Alors là, vous vous dites, ouais, Sylvie, elle est bien gentille, hein. Ouais, mais nous, ça ne marche pas comme ça. Nous, ce n'est pas facile. Puis nous, on est trop différents. Puis nous, on n'est pas de la même culture, alors on ne parle pas le même langage. Puis moi, je ne le supporte pas, il est trop pantouflard. Hein. Ah non, mais il est trop hyperactif, moi, il me fatigue. Oh, moi, je ne l'écoute plus parce qu'elle parle sans cesse, de toute façon. Oh, puis elle a grossi depuis qu'on est mariés. Nous, on n'a plus rien à se dire. Puis de toute façon, nous, on ne s'aime plus. Hein, parce que ça fait tellement longtemps qu'on est mariés, l'amour, il ne dure que 3 ans. Ah, certains, ils ont un peu plus d'espoir, l'amour dure 7 ans. Et tant d'autres choses, hein, je suis sûre que vous avez des listes comme ça. Moi, je ne vais pas vous dire que c'est facile. Mais je vais vous dire que c'est possible. Et j'ai pour vous ce matin quelques exemples concrets. Des exemples qui sont ici parmi vous. Alors ceux que je ne vais pas citer, ne le prenez pas pour vous, hein, j'ai rien contre vous, mais je ne pouvais pas citer tout le monde. Donc je vais commencer par un premier couple. C'est Micheline et Gabriel. Vous les connaissez ? Eh bien, pour moi, Micheline et Gabriel représentent un amour qui supporte les épreuves. Au tout début de leur histoire, Gabriel est tombé gravement malade à la période de leur mariage. Micheline a failli se retrouver jeune mariée et veuve. Et malgré le fait qu'ils le savaient, ils se sont quand même engagés dans le mariage. Malgré les défis que ça représentait, ils se sont quand même engagés dans le mariage. Et combien d'années plus tard ? 40 ans ? 50 ans plus tard, eh ben, ils sont toujours mariés et toujours heureux de l'être. Et Gabriel est toujours vivant. Tout ce que je vais vous dire là, j'ai demandé l'autorisation au couple de vous le dire. Hein. Donc malgré les difficultés qu'ils ont traversées, Gabriel et Micheline ne se sont pas lâchés la main. Ils les ont traversées ensemble, même si des fois ça a été plus dur que d'autres, ils les ont traversées ensemble. Bon, d'accord. Vous allez me dire, oui, mais ils sont d'une autre génération. De la génération où on se mariait pour la vie. Nous, maintenant, ça a changé. Alors, on va descendre plus bas, la génération en dessous. Et là, je vais vous parler de Ritza et Flo. Vous les connaissez ? Ritza et Florence. Donc, Florence, réservée, pragmatique, une éducation suisse. Je ne me moque pas, hein. Qu'on s'entende bien, hein. Je ne me moque pas du tout. Maintenant que je vis en France, je me dis, oh purée, l'éducation en Suisse, vivement que je rentre à la maison. Donc Ritza, malgache, comme ça, vous voyez ce que je veux dire, hein, malgache, hein, tout est dit. Est-ce que vous avez déjà vu Ritza en concert ? Vous l'avez déjà vu ? Alors Ritza en concert, eh bien, il chante de tout son cœur, avec tellement de joie, qu'il court comme ça sur la scène, il saute et tout. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir sur Internet, et sinon il y a un concert la semaine prochaine, venez le voir. Il s'agite, hyper exubérant, et Flo, toute calme et toute posée. Deux tempéraments et deux cultures différents. Plus de 20 ans plus tard, combien d'années ? 25 ans plus tard, eh bien, leur amour continue de grandir. Ils continuent de grandir malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les différences de tempérament qu'ils ont, malgré tout le travail qu'ils ont. Leur amour continue de grandir. Mais quel est leur secret ? Vous aimeriez le savoir, hein ? Ben, je ne vais pas vous le dire tout de suite. Je vais vous parler d'un autre couple que je trouve extraordinaire. Un couple qui, à mon avis, reflète bien ce verset qu'on a vu d'Éphésiens. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. » Le Christ, il a aimé, il a pris soin, il a pleuré, il a consolé son Église. Et le couple dont je vais vous parler maintenant, c'est Nicolas et Estelle. Ce couple-là qui se donne et qui est prêt à revoir leur choix de vie par amour l'un pour l'autre. Leur départ qui approche est un départ qui a été choisi par amour l'un pour l'autre. Ils ont dû revoir leur choix de vie. Ils se sont installés ici il y a une dizaine d'années. Leurs enfants sont intégrés. Ils se sont intégrés à l'Église. Ils se sont adaptés à la vie suisse. Nicolas est pasteur ici. Estelle travaille comme infirmière. Ils se sont intégrés. Et pourtant, leur cœur les appelle ailleurs, le Seigneur les appelle ailleurs. Et par amour l'un pour l'autre, ils font le choix de repartir. Alors à ce niveau-là, peut-être que certains se disent « Ouais, mais tout ça, c'est des vieux, hein ?» Parce que vous êtes d'accord que quand on a moins de 30, 35 ans, tout ce qui est au-dessus, c'est vieux, hein ? Bon, alors on va prendre encore deux autres couples. On va en prendre un encore dans la même catégorie dans que les deux précédents, dans la même tranche d'âge. Et là, je vais vous parler de Marianne et André. Moi, je les trouve extraordinaires. Et ce que je trouve extraordinaire chez eux, c'est comment chacun d'entre eux a su garder sa propre personnalité. L'un des deux est posé, calme, réfléchi. L'autre donne, je dis pas de nom, hein. Vous ferez votre truc. L'autre donne toujours l'impression d'avoir le feu qui brûle tellement que ça va exploser pour notre plus grand bonheur. On l'a vu encore ce matin. Et chacun a gardé son tempérament tout en étant unis et complémentaires l'un à l'autre. Et forcément, André et Marianne m'amènent au couple suivant, qui sont Esteban et Joanie, puisqu'ils sont les parents d'Esteban. Esteban et Joanie, eux, sont beaucoup plus jeunes. Je ne veux pas dire que les autres sont vieux, hein. Mais malgré leur jeunesse, ils ont su construire un couple solide, un couple fort, uni et ancré sur de bonnes bases. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont tous en commun ? Qui dit quoi ? L'amour pour le Seigneur, Jésus. Vous avez d'autres idées ? La Bible. Ils ont en commun les bonnes bases. L'amour et l'obéissance à Dieu. Ils ne se sont pas mariés pour des tas de raisons bien humaines, comme nous en avons tous. Peut-être qu'ils en avaient quand même quelques-unes, hein, parce qu'ils sont humains. Mais ils ne se sont pas mariés que pour ces raisons. Ils ne se sont pas mariés simplement, oui, ben on s'aime, on se marie, et puis si ça ne va pas, on avisera. Ils ne se sont pas mariés seulement devant Dieu. Ils se sont mariés avec Dieu. Ils ont consacré, offert, donné, livré leur mariage à Dieu. Ils ont obéi, ils ont fait l'acte d'obéissance, de consacrer leur mariage à Dieu. Ils ont obéi, comme Adam et Ève avaient obéi dans la Genèse. Ève a accepté que Dieu la conduise à Adam. Adam a accepté de prendre Ève pour épouse. Le Christ a obéi lorsqu'il a donné sa vie pour son Église. Ces couples dont je vous ai parlé ont obéi. Chacun d'eux était différent de l'autre. Chacun d'eux était imparfait et l'est encore. Chacun d'eux a accepté par amour et par obéissance à Dieu la transformation. Et chacun d'eux a changé. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques années, comme Esteban et Joanie se sont mariés, ou il y a 50 ans, quand Micheline et Gabriel se sont mariés. Ils ne sont plus les êtres qu'ils étaient à l'époque. Ils ont été transformés. Chacun a été transformé, pas seulement l'épouse, pas seulement l'époux. Chacun a été transformé. Chacun séparément et chacun ensemble s'est laissé transformer et changer par Dieu. Ils se sont mariés par amour, parce que l'amour est la base de tout. Et tous ont inclus Dieu dans leur mariage. Du coup, ces mariages sont posés sur des fondations solides. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent jamais d'épreuves. Ça ne veut pas dire que leur ciel est toujours bleu. Ça ne veut pas dire que jamais ils se montrent les dents, que jamais ils se grognent dessus, que jamais ils se prennent la tête. Mais ça veut dire que pour eux, l'amour qui les unit et le lien que chacun séparément, mais aussi en couple, ensemble, a construit avec Dieu, ce lien est plus fort que l'adversité et que les différences. Pour pouvoir entrer dans le mariage tel que Dieu l'a conçu, il faut pouvoir être prêt à donner à l'autre la place qui est la sienne dans notre vie. Il faut être prêt à penser à l'autre avant de penser à nous-mêmes. Et ce n'est pas évident, c'est difficile. Chacun a tendance à vouloir sauver sa peau plutôt que la peau de l'autre. Alors oui, il est vrai que le mariage est régenté par l'État, qu'on va d'abord se marier au civil et pas forcément à l'Église. Mais nous ne pouvons pas effacer pour autant le fait que le mariage n'est pas une intervention humaine ni culturelle, mais que son origine se trouve bel et bien dans la volonté de Dieu. Puisque nous l'avons vu, le livre de la Genèse, dès le départ, en parle. C'est le couple, expression de la différence, qui, dès le départ, a bénéficié des bénédictions de Dieu. Dieu a montré ainsi que le couple est l'élément essentiel de sa création. Et c'est ce que Jésus a confirmé dans Matthieu 19, quand il dit « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils ne feront plus qu'un. » Du coup, vu ainsi, l'attachement et la fidélité l'un à l'autre par le biais du mariage deviennent une œuvre concrète et divine. Ils prennent une dimension qui les rend beaucoup plus compréhensibles et beaucoup plus supportables et acceptables. Le mariage devient un projet qui ne sera pas soumis aux caprices de la vie. Mais au contraire, le couple s'inscrit dans une relation que Dieu, bien avant eux, avait appelée de ses vœux. Dieu voulait conduire le couple ensemble vers le même but. Alors oui, je pense que ce n'est pas seulement aux futurs jeunes candidats au mariage que nous devons enseigner le mariage, mais c'est à toute l'Église. Parce que dans l'Église, il y a des couples mariés depuis un certain nombre d'années qui rament, qui sont en difficulté, qui vivent des moments difficiles. Et on ne doit pas les oublier. Comme on ne doit pas oublier aussi les couples plus mûrs qui sont en train de se former. Nous ne devons pas non plus oublier ceux qui ont vécu l'échec du mariage et qui sont perclus de douleur, qui n'osent pas en parler, ceux qui n'osent plus espérer un avenir à deux. Tous les couples ont besoin de soutien, que ce soit ceux qui vont bien, ceux qui vont pas bien, ceux qui se créent, ceux qui pourraient exister. Tous ont besoin de soutien, tous ont besoin de nos prières. Parce que pour mener à bien un mariage, il faut une bonne dose de grâce. Il faut apprendre à conjuguer le verbe agapé à tous les temps. Parce que l'amour agapé est le seul qui peut aimer de manière sacrificielle comme le Christ l'a fait pour son Église. Il est le seul amour qui est bien plus qu'une émotion, il est une action. Il est le seul amour qui permet d'aimer l'autre en dépit de ses défauts, de ses faiblesses ou de ses manques, et malgré ses différences. Il est le seul amour qui n'aime pas l'autre parce qu'il est digne d'être aimé, mais qui rend l'autre digne d'être aimé. Le mariage, quand il est ainsi éclairé par la présence de Dieu, est une communion dans laquelle l'amour humain s'efface devant l'amour de Dieu et se trouve magnifié par la présence de Dieu. Une relation qui permet aux deux membres du couple de se mettre ensemble en route sur le chemin de Dieu. Si vous êtes en train de vous engager dans le mariage, eh bien, réfléchissez à tout ça, non pas pour dire non, mais réfléchissez à tout ça, prenez comme ça Dieu avec vous dans ce bateau. Et si vous êtes déjà marié, eh bien, réfléchissez si vous êtes en difficulté, où est-ce qu'il y a une place que vous n'avez peut-être pas donnée à Dieu. Sauvons ensemble les mariages, parce que vivre heureux à deux est excellent pour la santé physique et mentale. Parce que le véritable amour, l'amour agapé, est patient. Il se réjouit des petits pas que nous faisons. Il garde la foi même dans nos galères. Il vient secourir et guérir. Il nous assure de sa présence jour après jour. Il donne selon notre besoin et ne demande rien en échange. L'amour traverse les tempêtes avec nous et même quand les vagues sont agitées, il ne nous lâche pas la main. L'amour agapé pardonne 70 fois cette fois. Il agit avec bienveillance, il est inconditionnel. Il donne à la vie un sens, il ne quitte jamais l'humilité. Il élève l'autre et ne cherche pas son propre intérêt. L'amour n'a pas d'âge, quel que soit notre visage. Il est un choix qui demande beaucoup de foi. On peut le laisser partir, parce que l'amour laisse libre, mais sans l'amour, serions-nous encore en vie ? Car bien souvent, nous n'avons que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et pour unique secours. Nous n'avons que l'amour pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Nous n'avons que l'amour pour offrir en prière tous les maux de la terre. Et nous n'avons que l'amour à offrir à ceux-là même dont l'unique combat est de chercher le jour. Nous n'avons que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Et quand arrive le grand jour, le jour du grand voyage, pour nous tous, nous n'avons que l'amour à offrir en partage. Parce qu'à la fin, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Alors prenons soin de l'amour. Amen. On veut prier. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier. Te remercier pour tant d'amour de ta part, pour tant d'amour déversé sur nous. Te remercier, Seigneur, pour ton amour et te remettre toute l'Église, tous les couples de cette Église, Seigneur. Ceux qui sont en construction, ceux qui sont en devenir, quelles que soient les étapes où ils en sont, Seigneur, nous voulons tous te les remettre. Afin que ton œuvre continue en eux, Seigneur. Les couples sont ta force, alors permets-leur d'être ta force, Seigneur. Seigneur, nous te le remettons pour que, à chaque instant de leur vie, toujours plus tu brilles dans leur vie et qu'à chaque instant ils puissent te reconnaître. Que là où tu ne brilles pas actuellement, ils puissent faire table rase, Seigneur, de tout ce qui les sépare pour te redonner ta place. Seigneur, merci pour tous les couples, quels qu'ils soient. Merci pour toutes les personnes engagées dans une relation amoureuse, Seigneur. Merci de les bénir. Merci de prendre ta place, Seigneur, et de nous donner à toutes et à tous le désir et la volonté que tu aies la première place, quoi qu'il en soit. Amen.